Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un one shot et nous allons tester Prophétie, un jeu ramené par Adrien dans sa besace. Adrien,
c'est
ça va?
Alors, c'est Prophétie, deuxième édition.
Adrien, ça va?
Ça va.
Tu dis bonjour aux auditeurs quand même?
Non, non, non.
eux, ils ne disent jamais bonjour.
Ouais, c'est clair. Je veux dire, à moins qu'il y ait un commentaire bonjour de la part de chacun des auditeurs, je ne dirais pas bonjour. Voilà, voilà, c'est dit.
Emmanuel Meffret est avec nous. Emmanuel, ça va la pêche?
Salut, ça va.
Nous sommes également avec Yosei.
Yo, ça
va? Et Natacha.
Salut.
Nous allons donc tester Prophétie, un jeu de...
Alors,
Halloween.
Un jeu de Benoît Tinos, Julien Blondel, Geoffrey Picard, Philippe Tessier, Timbre Poste et Leonidas Vesperini pour la première édition. Et ensuite, bon, il y a eu des révisions et rafraîchissements de la part de Thomas Ferron, Jean-Marc Maquin, Thierry Masson et Isabelle Vasseau. Alors, Prophétie, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans mon adolescence, qui est un jeu très traditionnel, caractère compétence. Qui a des lourdeurs, mais qui a aussi des éléments très élégants que moi je garde en tête pour certaines idées de jeu ou autres. Bon, on aura l'occasion de présenter ça, soit maintenant dans l'introduction, soit ensuite.
Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de l'univers?
De l'univers du jeu, très bien.
Ouais,
alors qu'on l'univers du jeu, c'est un univers Medfan où il y a longtemps, le monde a été créé par les dragons, par un premier dragon,
Adrien,
qui s'appelle Moriagorn, et il a créé ses fils et ses filles des grands dragons. Et donc, chaque grand dragon était associé à un élément. Il y avait un grand dragon de la terre d'abord, puis un grand dragon du feu, puis un grand dragon du métal, puis un grand dragon de la nature, puis de la magie, etc.
D'accord.
Et au total, ils sont 9, avec 2 dragons qui ont une histoire un peu particulière, qui est le dragon de l'ombre, qui est tous les doutes et toutes les craintes de Moriagorn.
Le dragon de l'ombre est le méchant, mais oh, comme c'est surprenant.
Alors, c'est... Non, c'est discutable.
Ah.
Ce n'est pas le méchant.
Ah.
Enfin, alors, ça sera un méchant pour les personnages que vous allez jouer, mais ce n'est pas, il n'est pas méchant dans l'absolu. Notamment les hommes, la création des hommes dans cet univers-là, ils sont nés immortels, il y en avait une centaine, un millier je crois, et un jour, donc Kalimshar, donc le dragon de l'ombre, et donc ce deuxième dragon dont je voulais vous parler qui s'appelle Ki, qui est un dragon qui n'avait pas de domaine au début quand il est né, et qui a cherché justement un domaine à avoir, tandis que tous ses grands frères et ses grandes sœurs avaient un domaine. Et donc du coup lui, il a beaucoup aimé ses immortels, ses humains, et donc il les a pris sous son aile.
Et c'est le cas de le dire.
C'est ça le cas de le dire. Et un jour, lui et Kalimshar ont, suite à une grande guerre qui a éradiqué une grande partie de ces immortels, enfin qui ne vieillissaient pas mais qui pouvaient périr au combat, ils ont donné aux humains le pouvoir de se reproduire mais de mourir.
D'ailleurs,
et donc, Kalimshar.
J'en profite pour passer un message. Je suis pour la création d'un mot dans la langue française pour les immortels. Qui peuvent vivre,
ouais.
Mais qui ne peuvent pas mourir, enfin qui peuvent pas mourir de vieillesse, mais qui peuvent mourir quand même. Parce qu'il y en a marre.
Faudrait trouver un mot.
Il faut, il y en a marre.
Les demi-mortels.
Les demi-mortels, ouais. mais qu'est-ce que tu fous là, toi?
Invocation de Fabien, attaque vocabulaire.
Alors, techniquement, je sais pas, destructible, indestructible, immortel, mortel. Enfin voilà, un immortel, il peut pas mourir, même si on peut.
Essaye pas de sauver la langue française, il manque plein de concepts.
Rien n'attachait de moi, sauvons la langue française.
J'étais en train de réfléchir aux elfes de Tolkien, ils sont qualifiés d'immortels. Mais ils sont pas appelés les immortels, je crois, hein, me semble-t-il.
Enfin voilà, tout ça pour dire.
Voilà, t'as
bon, voilà, tout ça pour dire. Et donc, le monde a évolué, beaucoup, beaucoup de temps a passé depuis lors. Et aujourd'hui, sur cette terre, les dragons ont chacun, depuis lors, ils ont chacun créé une ville, une caste dans lesquelles ils prodiguent leurs enseignements. Ça ressemble beaucoup aux écoles de foi de Sans-Néant.
Et un petit peu.
Donc il y en a 8 d'entre eux qui ont fait ça. Kalimshar est de son côté avec son pays, il n'a pas fondé de caste et il recueille, on va dire, tous les rebuts de la société. Et
C'est Sans-Néant qui ressemble à Prophétie, puisque
oui,
Prophétie
oui,
est sortie avant.
Et donc dans cet univers là les dragons sont les dieux, plus ou moins. Donc il existe les 9 grands dragons qui ont eu des enfants on va dire de moindre envergure, qui sont toujours source de crainte, d'admiration et d'inspiration pour les humains. Et donc, dans cette société où il y a une très forte notion de caste, les joueurs vont jouer des aventuriers. Donc, c'est un jeu participationniste. On attend de vous que vous soyez des aventuriers. Ça pose un petit problème vis-à-vis de certains métiers, enfin, certaines castes, mais on pourra en discuter. Et donc, vous allez évoluer dans cette société où il y a des castes qui comprennent à peu près une trentaine de pourcents de la population et le reste de la population qui sont les 100 castes et qui ont bah, beaucoup moins de droits, beaucoup moins d'autorité, beaucoup moins de prestige.
Est-ce qu'il y a la podcast ?
Je pense qu'il y a la podcast.
Bon, bah, c'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant du système de jeu et du système de résolution ? C'est un jeu de rôle des plus classiques.
C'est un jeu de rôle des plus classiques. MJ, voilà, j'ai les secrets, l'univers, il y aura le problème du petit-déj, tout ça. Et, et les joueurs qui, bah, vous allez jouer chacun vos personnages.
Il faudra qu'on recherche notre petit-déjeuner pour...
Chocolat pour moi, s'il te plaît.
C'est ça. Et après, en termes de système...
Est-ce que tu as des bras ?
En termes de système de résolution... C'est du carac plus compétence plus des 10. Les deux éléments dont j'ai envie de parler, qui pour moi sont assez élégants dans ce jeu, la première chose, c'est que donc, dans ce monde, il existe trois tendances de pensée principales qui un peu divisent la société et les gens.
Divisent la société et les gens.
Il y a la tendance dite draconiste, qui est le respect de la tradition, le respect de les dragons sont tout puissants, ce sont nos maîtres, c'est eux qui ont la justice, la loi... voilà, ils sont à suivre. Il y a la tendance dite fataliste, hein, qui est donc celle instaurée par Kalim Shah, qui est donc notre vie n'est que peu de choses, on va tous mourir. C'est aussi il prône aussi une partie d'égoïsme, parce que bah, à quoi bon penser aux autres alors qu'il n'y a que ma vie qui compte. Donc en ça, ça peut être aussi le mal. Et la dernière pensée, c'est la pensée humaniste, qui est une pensée qui s'est développée dans les dernières centaines d'années dans cet univers-là, et où des humains ont commencé à développer des techniques, de l'ingénierie, de la chirurgie, des choses comme ça que les dragons n'apprécient pas trop. Parce qu'avec une arbalète, on peut commencer à menacer un dragon. Parce que créer quelque chose avec des poulies et des rouages, c'est un peu ne pas utiliser les dons des dragons qui sont la magie. Et donc, c'est un peu, pour l'humanité, se séparer de ce pouvoir ancestral, et donc c'est assez mal vu aussi. Et donc, dans les résolutions de thèse, vous avez le choix n'importe quand de, au lieu de jeter un des 10, d'en jeter 3, un qui représente chaque tendance, et de choisir le dé que vous voulez à la fin, sachant que si vous prenez le dé qui ne correspond pas à votre pensée de personnage, ça va faire évoluer la pensée de votre personnage.
Ah, c'est rigolo ça.
Ça, c'est un aspect qui est assez intéressant. Et le deuxième aspect, moi, qui me plaisait dans ce jeu-là, c'est une des ressources qui sont disponibles pour les joueurs, qui sont la maîtrise et la chance, qui s'utilisent lors d'un lancer de dés. La maîtrise se dépense avant un lancer de dés, on peut en dépenser autant qu'on veut. Enfin, on a 10 points au maximum entre chance et maîtrise. Et on peut dépenser les points avant pour avoir un bonus donné au dés, qui nous permet d'atteindre des scores super élevés. Ou alors la chance, qui nous permet de dépenser les points après le test, si on a raté, pour atteindre le succès. Et ça prône des visions de personnages différentes. C'est,
J'ai mal à voir ce que ça donne. Enfin,
c'est moteur de jeu parce que ça...
Attends, bon, on verra ça après.
Très bien.
Fais pas okay. Le podcast avant le podcast.
J'ai déjà tellement de choses à dire.
Oui, parce que du coup, bah oui, parce que toi, tu le connais, ouais. Mais il faut d'abord que tes joueurs le découvrent.
Voilà.
Alors, c'est très bien. Et c'est parti, vous jouez alors.
C'est parti, on va créer nos personnages. Ça nous prend un petit moment. On va jouer et on reviendra après.
À tout à l'heure.
C'est parti, Kiki!
Alors, fin de la partie de... Je vais laisser ça en intro. T'es prévenu, t'auras l'air d'un...
Mais il n'y a pas de problème!
Donc, fin de la partie de prophétie. Alors, ça s'est passé comment, les enfants? Qui veut commencer?
Alors,
Adrien.
Moi, je peux donner mon avis typique. De MJ. Pour moi, c'est une partie typique. Alors, moins bourrée d'action que peuvent l'être certains scénarios. Mm-hmm. J'ai pris le parti de faire le...
Natacha se prend la
tête.
Non,
mais attends, Natacha. J'ai pris le parti de faire le scénario de base du bouquin qui permet d'explorer tranquillement l'univers, de s'amuser un peu avec le système de résolution, de voir un petit peu, ben, déjà, qu'est-ce qu'est le scénario de base.
Oui.
Parce que, ben, au final, ça en dit beaucoup sur le jeu. Effectivement, il y avait peu d'action. En même temps, on n'a pas beaucoup joué. On s'est arrêté un petit peu tôt. Mais je pense qu'on aura déjà suffisamment de choses à en dire. Puis de toute façon, je pourrais toujours expliquer sur le reste du jeu a posteriori.
Je vois que la fiche a été coupée en bas. C'est marrant. Vous avez fait beaucoup de jets de ouvement, de
non, mais par contre, t'as vu, j'avais mis 9 en kiv.
T'avais mis 9 en kiv, ça c'est bien. Ouais.
Elle a fait un jet de kiv.
Mais non, même pas en plus. Mais...
L'acrobatie, j'aime beaucoup. Un jet de crobatie. Ok.
Me jette pas mes papiers.
Fabien, qu'est-ce que tu fous là, t'as rien à faire dans ce podcast.
Je sais pas, il est en train de foutre le bordel.
Il fait chaud ici.
Il est en train de me dégager.
Il s'installe avec son PC en plus, tranquille.
Il s'installe avec son PC.
Je me répondrai en présence du micro.
Tu vas encore nous faire des bruits de clavier, c'est ça?
Ah, exactement. Non, mais ça m'intéresse ce que vous racontez. Mais
Donc, t'es obligé de me pousser, qui suis légitime sur le podcast.
Je prends des notes. Les auditeurs auront compris que je suis l'invisible. J'ai écouté la partie de loin en loin. Et
il tient la place pour un invisible.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est invisible, pas intangible. Hein.
Exactement. Merci.
Voilà.
Merci.
On aime bien ta tangibilité.
Subtil. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement les personnages, peut-être, ou la fiction? Je ne sais pas comment vous voulez présenter ce podcast.
Je peux commencer par très rapidement ce qui se passe au tout début de la fiction, de ce scénario d'introduction.
Adrien.
Parce que ça introduit un autre élément important du jeu dont on n'a pas parlé dans l'introduction du jeu, justement. Dans Prophétie, ça fait partie des choses qui sont mal expliquées, peu expliquées. Il y a un chapitre qui parle de compagnies d'inspirés. Oh. Dans Prophétie, les compagnies d'inspirés sont des ensembles d'humains qui sont inspirés par une étoile qui va fédérer un groupe d'humains autour de questions, de motivations, d'une vision du monde particulière qui transcende un peu les questions, le triptyque fatalité, humanisme et draconisme dans le monde. Et sans que ce soit dit, c'est pas dit que tous les groupes de PJ doivent en faire partie, mais je pense que c'est sous-entendu, en fait, parce que c'est ce qui donne la cohérence au groupe de joueurs.
D'accord.
Et donc, ce scénario commençait par les personnages sont invités chez un membre de leur famille, ils vont y passer quelques jours, et puis ces membres-là de la famille vont les inviter dans leur confrérie d'inspirés.
D'accord.
Et donc, c'est un moyen de créer ce groupe de PJ. Alors, on n'a pas perdu de temps là-dessus, parce que si on avait joué en campagne, c'est vachement important de prendre du temps là-dessus. Là, on a un peu zappé, on a dit « Ok, voilà, donc ça se passe comme ça, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Vous faites partie d'une compagnie d'inspirés par la même étoile. » Et on vous offre, donc ça c'est le début, un des membres de cette confrérie est décédé il y a quelque temps. Mmh. Et vous recevez en héritage ces terres, donc un petit fort dans une campagne riante à 5 jours de marche de cette ville. Et donc, voilà, la partie, c'est les joueurs arrivent là-bas et puis doivent retaper ce fort qui est tombé en ruine. Et puis, il va y avoir la vie du village au quotidien à gérer, les petits problèmes. Donc moi, en termes de préparation...
C'est une baronnie, finalement, quoi. Tu joues presque...
C'est ça. En préparation de partie, ce qui se déroule de la partie, c'est qu'il y a une sorte de liste d'événements du quotidien. Donc c'est... un enfant va disparaître parce qu'il s'est perdu, les personnages vont peut-être aller le chercher. Il y a des événements qui ont lieu qui sont liés un peu plus, on va dire, à la problématique centrale du scénario, que ça va être un séisme qui va avoir lieu, puis un deuxième, puis un troisième, où on va accuser les personnages d'être à l'origine de ça parce qu'ils viennent d'arriver quand ça se déclenche.
Ah, c'est pas mal.
Ça, on a à peine commencé, on a eu le premier séisme avec les villageois qui commençaient à douter, puis on s'est arrêté un petit peu après.
D'accord.
Et après, il y a des événements de vie un peu quotidienne, donc il allait y avoir une fête du village organisée et un match de soul entre les habitants du village et les habitants du village d'à côté. Donc c'est une sorte de rugby populaire.
C'est un scénar de la base ou c'est un
scénar de la base?
D'accord, ouais, ça c'est cool.
C'est le bouquin de la base.
Ok.
Et donc, dans ce village, il y a plusieurs PNJ qui sont décrits, qui sont le chef du village, la prodige, donc la druide, prof des écoles, guérisseuse du village, grosso modo.
D'accord.
Il va y avoir aussi une aubergiste qui a un penchant humaniste. Donc la prodige qui, elle, est très draconiste, et donc du coup, il y a des antagonismes entre ces deux personnages. Il y a le voisin des personnages qui est un riche paysan qui possède plein de terres et qui, du coup, depuis, a commencé à ronger sur les terres qui sont associées à leur fort.
D'accord.
Et qui, lui, est un fataliste arriviste qui essaye de profiter de la situation. Et donc, en gros, il y a un petit peu toutes les tendances représentées par des points de vue assez archétypaux. C'est-à-dire le chef du village qui est draconiste parce que, c'est comme ça depuis tout le temps, on y croit parce que c'est notre loi. La prodige qui, elle, a plus une vision fanatiste, religieuse. Le voisin arriviste. Après, on a aussi
cette description commence comme un scénar de Dogs in the Vineyard.
Oui, mais un peu. Le médecin, enfin, pas le médecin, mais comment ça s'appelle?
Le vieux.
C'est
le
quoi
vieux.
Ce terme le vieux. Ah, le bordel.
Tu vas y arriver, explique.
Le vieux, le rebouteux.
Oh, le reboot.
Le reboot du village. Parce qu'en fait, dans ce village, les gens qui ont des problèmes de santé, aller voir la prodige, c'est trop on a l'impression de lui faire perdre son temps.
D'accord.
Parce qu'elle est tellement importante à leurs yeux qu'ils ont l'impression de faire perdre son temps. Donc, ils vont voir le rebooteux, qui lui a un autre penchant du fatalisme, qui est un peu les dragons, ils nous ont un peu laissé tomber, quoi.
D'accord.
Il y en a un, c'est l'égoïsme, l'autre, c'est un peu la fatalité du. Ben, notre vie, elle est dure et on la vit, et les dragons.
Déjà, c'est très intéressant parce que dans la description que tu fais des personnages, on voit que la fiche de personnage et l'orientation qu'on a vis-à-vis des dragons et vis-à-vis de l'univers oblige à fouiller les personnages. C'est-à-dire que par la description de leur obédience, si j'ose dire, je sais pas comment ça s'appelle, leur alignement,
C'est une sorte d'alignement, tendances. C'est
une espèce de tendance, voilà, ça a des tendances. Eh bien, ça approfondit immédiatement les personnages et ça va nous donner des couleurs pour pouvoir les jouer par la suite quand les PJ vont les rencontrer. Donc ça, c'est intéressant, je trouve.
Donc, en gros, c'est une sorte de bac à sable avec, moi, j'ai quelques événements pour venir relancer de l'action et autres. Et c'est l'occasion pour les joueurs de rencontrer les idées de plusieurs tendances qui vont se confronter et de voir comment ils se positionnent par rapport à ça. Ça, c'est un aspect du jeu. Parce qu'après, c'est vrai que c'est aussi un jeu avec de l'aventure, avec des secrets, avec des choses à découvrir. On va dire plus porte monstre trésor et compagnie, mais c'est un aspect qui est central du jeu.
Alors on va peut-être faire le tour pour présenter les personnages un petit peu, voir comment est-ce que les joueurs ont décidé d'affronter ou de se confronter à cette petite vie de village. Natacha.
J'ai très mal choisi. Non, en fait, alors peut-être que j'ai été influencée aussi, parce que dernièrement, le dernier jeu de ce type-là que j'ai fait, c'est Warhammer, et donc j'étais partie sur un jeu d'aventure. Et en plus, il me semble qu'Adrien l'avait présenté comme ça, que c'était un jeu d'aventure.
D'accord.
Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un perso qui est capable d'affronter le monde, quoi. Et dans un monde où il y a plein de magie, je vais faire un mage. donc, j'ai choisi mage. Donc, je m'appelais Emerline. En plus, j'avais pris une classe d'âge plutôt âgée, donc j'étais pas la dernière classe d'âge mais ancienne, donc commence déjà quand même
plus de 40 ans
commence déjà à ressentir quand même un peu les symptômes de du vieillissement, en tout cas.
Les symptômes. Le vieillissement n'est pas une maladie, le chat.
Vu les effets que ça a...
Ça se posait des questions.
Voilà, donc du coup, j'étais pas très très forte, pas très résistante, j'étais plus mentale que physique, on va dire.
D'accord.
je suivais la loi de... Mon dragon supérieur, c'était donc Nenya, qui est forcément le dragon des mages. Que dire Nenya. D'autre j'avais pris...
Ouais, alors, ça, je crois Nenya. On n'en a pas parlé dans l'introduction.
Le dragon de Finkielkraut, ça
Nenya. Non, c'est aussi...
Oh mon dieu.
C'est aussi un des anneaux dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, mais...
D'accord.
Je sais pas si on en a parlé, mais en gros, il y a les 9 dragons, 8 ont fondé une caste, et donc la caste des mages est chapeautée par le dragon de la magie, Nenya.
Nya.
Voilà. Putain, maintenant tu me fais tellement penser à Finkielkraut, mais c'est terrible.
Oh non, ta gueule. Ah non, alors je suis déjà le BHL du JDR, alors j'aimerais bien éviter d'être le Finkielkraut. Nya, Finkielkraut. J'aimerais bien éviter d'être le Finkielkraut du JDR. Merci. Ça m'arrangerait. Donc, Natacha. Pourquoi tu dis qu'il était mal choisi, au contraire?
Alors, j'expliquerai après, je termine sur la création.
D'accord.
Donc, déjà, la création de perso prend du temps, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très. En fait, ce qui était dérangeant, c'est qu'on avait une seule base pour 3, donc voilà. Ouais. Ça fait... ouais. Mais c'est pas très grave, en plus, moi, j'adore les phases de création de perso, donc je m'en fous. Donc, voilà, et du coup, il fallait aussi que je choisisse de la magie, donc j'avais un sort de rêve, parce que je voulais faire une rêveuse, un sort de feu et un sort de pierre, et j'avais pris des trucs qui pouvaient, de la magie instinctive, qui pouvaient donc, selon ce que j'en pensais, ou l'idée que je m'en faisais, servir en combat.
D'accord.
Ouais, tu n'as pris que des sorts qui se servaient en combat.
Oui.
T'as fait un personnage monomaniaque quand même.
Oui, moi, sur ce genre de jeu tradit, j'ai l'habitude qu'on me dise qu'il faut minimaxer, et justement, d'habitude, je minimaxe pas assez. Donc là, je me suis dit, c'est bon, là, on va arrêter de faire le réflexe Natacha, on va faire un truc un peu, voilà. Et
oui, mais du coup, il ne faut pas que tu sois frustré par tous les moments où tu ne sers à rien, parce que c'est les autres qui doivent servir, et quand il y aurait eu des combats, tu aurais été utile, et tu as été utile pendant les combats. Mmh. Enfin bon.
Disons que Natacha aime être utile en dehors des combats, peut-être. C'est ça, peut-être que tu aurais dû minimaxer dans la bibliothèque.
Oui, je sais pas.
Enfin bon.
Bon, enfin, bon, bref.
De toute façon, ça fait partie du problème du jeu, on en reparlera de ça. Ouais.
Hein, bon, bref. Je découvre qu'il va falloir qu'on retape une maison. J'ai 49 ans. J'ai 49 ans dans un monde médiéval fantastique, il faut que je retape une maison. En plus, j'ai pas de rhumatisme pour ma part, en tout cas, n'est-ce pas, Emmanuel? Mais je sens qu'il pourrait très bien être si je reste là trop longtemps. J'ai parmi mes.
Ce personnage énorme, c'est le personnage énorme, ça. Enfin, c'est
attends, elle était. Ce qui est bien, c'est que là, elle roleplay son personnage parce qu'en fait, oui. Elle était grincheuse.
Donc voilà, donc j'ai grinchonné toute la partie, effectivement. Donc j'ai fait peur à tout le monde. En plus, c'était super. Donc dans un truc où t'as besoin de social aussi, où il faut que tu rencontres des gens, c'est vachement bien.
C'est vachement bien, oui.
Voilà.
Grinchonné, quoi.
À peu près.
Voilà. La Tati Daniel de prophétie, quoi.
Ça veut ça, ouais.
Et donc, au bout d'un moment, j'ai noté sur ma feuille de. Pardon. Au bout d'un moment, j'ai noté sur ma feuille de perso. Et sinon, la magie et l'aventure, elles arrivent quand?
Ouais.
Voilà.
Yosei, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage?
Ah, entre deux rires.
Entre deux rires. Alors, qu'est-ce que tu as joué?
Du coup, un personnage voyageur. Donc, enfin, sa caste des voyageurs. Son dragon, c'est... Je l'ai écrit quelque part.
Dragon, c'est le dragon dirigeant de cette case. Parce que...
Non, j'ai décidé que j'avais mon dragon personnel. C'est classe.
Tu dis son seigneur. Enfin...
Oui, c'est ça, c'est son seigneur. Ouais.
Donc, je pense que tu peux le rappeler plus rapidement que moi, Adrien.
Zil.
Voilà.
Zil.
Alors, c'est important de noter tout de suite tous les noms dans ce jeu. Alors, dans Warhammer, il y a des sonorités allemandes. Ici, ça a des sonorités Metfan, c'est-à-dire des K, des G, des H, des Y et des Z. Voilà. Donc, Zil, c'est S-Z-Y-L. Hein, il faut faire les choses bien.
Zil.
Ici,
il n'y a que Zil.
Du coup, moi, j'avais... C'est le genre de problème qu'on rencontre souvent dans ces jeux-là, c'est qu'on rentre les caractéristiques principales avant de creuser un peu son personnage.
Oui.
Donc du coup, j'ai mis des caractéristiques en développant un personnage après qui ne correspondait pas du tout. Voilà. Donc comme on a eu un très gentil MJ, il m'a permis de changer quelque chose, quelques trucs en haut.
Alors après, je vous avais dit à la création de personnage de commencer à réfléchir à votre concept dès le début, ouais. Et après d'essayer de coller à ce concept. Mais bon, de toute façon, ce qui est vrai, c'est que ce jeu, tant qu'on n'a pas l'habitude de comment se créer le personnage, c'est vrai qu'il y a plein de choses, on ne sait pas encore quels sont les tenants et aboutissants de plusieurs choix. Donc effectivement, je vous ai laissé de la souplesse.
Ça a beau être quand même du Metfan tradi, il y a quand même des petites subtilités, mine de rien, qui fait aussi l'intérêt du jeu, heureusement.
Ne serait-ce que parce qu'on passe 2 heures à créer les fiches de perso, il faut bien qu'il y ait de quoi s'occuper pendant 2 heures. Donc,
c'est
ça,
puis en 2 heures, t'as le temps de faire évoluer aussi l'idée que tu pouvais avoir au départ.
Eh oui. Ouais.
Donc finalement, il s'est retrouvé un peu un personnage bâtard, mental, manuel, ni physique. Enfin voilà, c'était un peu bizarre.
Je sais pas, moi, de ce que j'en ai vu, il ressemblait vraiment au classique voyageur que je pouvais avoir sur mes tables.
C'est
quelqu'un qui tire à l'arc, qui a plusieurs compétences pour s'en sortir dans la nature.
Pas.
Okay, elle a eu pas de bol, mais ça après c'est un jeu où il y a des nés.
Ça sent le vécu là, il s'est passé quelque chose.
Disons que ma première action était de me perdre en forêt pour un voyageur, c'était un peu la loose. Voilà.
D'accord.
Dans la forêt de notre propriété.
Vous connaissez pas Marcus ? Une fois il s'est perdu dans son propre musée.
Enfin voilà, personnage classique.
S'est perdu dans son jardin, quoi. D'accord, très bien. Emmanuel.
Alors, moi, c'était Hector, donc avec un K. Du H, du Y, du Z, tout ce que vous
voulez. D'accord.
Donc, Hector était le forgeron de service, donc 50 ans aussi, avec les handicaps qui vont avec, c'est-à-dire une perception déclinante, des rhumatismes.
Ah, mais c'est les papis font de la résistance, ce truc-là. C'est quoi ce délire? C'était un trip,
en
quoi.
Fait, alors,
voilà. On va jouer à prophétie.
En fait, c'est important de le noter. Dans ce jeu, à la création...
Tu peux... Et c'est un jeune qui vous a donné la quête. Sans déconner. C'est quoi ce délire, là? Tu nous expliques pourquoi? Tu tires l'âge au hasard ou quoi? Avec un dessin?
Non, t'as le choix. En fait, tu peux choisir
ton âge. Le
pire,
c'est que c'était volontaire.
Tu peux choisir ton âge. Et en fait, il y a 5 catégories d'âge qui ont des effets mécaniques. Tu peux jouer un enfant entre 6 et 10 ans.
D'accord, ouais.
Un ado ou un jeune entre 10 et 15 ans. Un adulte entre 16 et 40, un ancien entre 40 et 50 et un vénérable au-delà de 51 ans.
D'accord.
Et ça a des gros effets. C'est-à-dire qu'en fait, un jeune aura certaines caracs qui seront un peu moins fortes, sera moins fort, moins endurant. Par contre, il aura plus d'empathie, plus de perception, plus de choses d'accord. comme ça. Okay. Les anciens auront aussi moins de force et compagnie, mais plus de présence, plus de, d'intelligence ou de volonté.
D'accord. Ouais.
Et ça a aussi des effets sur les points de compétence. Ben, un jeune, il a peu de points de compétence, beaucoup pour un ancien. Et il y a aussi des effets sur... On a des désavantages obligatoires
d'accord, ouais.
qui sont tirés un peu au hasard. Enfin, on jette au hasard deux fois, on choisit parmi les deux. Pour un adulte, il y en a un seul. Pour un vieillard, enfin pour un ancien, il y a un désavantage commun et un désavantage réservé aux anciens.
D'accord.
Donc type rhumatisme, cardiaque, aveugle, enfin malvoyant, que sais-je.
D'accord, ouais.
Et puis après, il y en a d'autres qui sont réservés aux enfants.
D'accord, voilà. Oui, okay.
Donc ça crée des personnages qui ont vraiment
des
éléments importants ouais. pour les définir. En fait, c'est en général, c'est ça qui définit le plus les personnages au début, qui va leur donner une sorte d'histoire et des éléments de jeu.
On rigole, mais c'est très intéressant.
Oui, cela
en fait.
Dit, pour le roleplay, c'était quand même intéressant.
Alors, après, ça pousse à la blague parce que quand on veut minimaxer, il y a certains désavantages qui en sont moyennement ou qui sont trop ponctuels, et donc du coup, vu qu'on peut en prendre en plus pour débloquer des points, ouais. pour acheter des avantages derrière, on se retrouve avec des... Enfin, moi je sais, quand je jouais ado, on se retrouve avec des tables où tout le monde était borgne et tout le monde, était lent à l'élocution. Enfin, si tu veux,
c'est hamster.
on en risque, mais. Quand tu minimax, ça donne des trucs un peu absurdes, mais c'est vrai que sinon, ça donne des éléments de couleur au personnage. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est important à noter, c'est en fait, ça, pour moi, c'est ça qui illustre comment on doit jouer à ce jeu-là. C'est que par exemple, les personnages de Natacha et de Yosei, non, c'était le tien,
Emmanuel,
et de Emmanuel, avaient tous les deux en désavantage une dette. Mm-hmm. Et en gros, c'est des événements qui, quand on joue un one-shot, n'ont que peu d'intérêt, mais qui en fait sont là pour donner des idées au MJ pour venir... faire rajouter de l'action, des événements.
Oui, ça sentait que c'était facteur de crise, de enfin.
Oui, en fait, nous dans nos façons de réagir
qui
aussi.
Qui ne l'explique pas, mais qui au final tourne autour des personnages, qui
c'est cool.
à qu'on conçoive une histoire autour des personnages.
Ça c'est cool. Donc Emmanuel, on n'a pas fini ton personnage.
Moi,
au final,
c'est vrai que ça partait vraiment de la volonté. J'avais envie de changer un petit peu, de prendre un perso pas forcément très vif, c'est ça, ni Jeannette torturée, histoire de changer un peu. et là, pour le coup, en fait, je l'ai fait remarquer un moment à Adrien, c'est qu'au fur et à mesure que je prenais les désavantages, les avantages, les compétences, etc., je trouvais vraiment qu'il y avait une cohérence et qu'à chaque nouvel élément, j'arrivais à le rattacher au background de mon personnage.
D'accord.
Donc j'ai vraiment trouvé que la création était intéressante pour ça. Le seul truc qui n'était pas vraiment 100% RP, c'était le choix de la psychométrie, qui est un espèce de poncif du jeu de rôle où il y a de la magie, quoi. Donc, sinon, tout le reste, ça tenait vraiment la route. Donc ça fait un personnage qui finalement est assez facile à jouer, assez agréable à jouer et qu'on a presque envie de développer sur la campagne. Quoi.
D'accord. Ouais. La fiction, donc on en a parlé un petit peu, les personnages sont présentés. Est-ce que vous avez d'entrée de jeu des scènes qui vous ont motivé, des scènes qui vous ont plu ou au contraire vous voulez rentrer directement dans la critique du jeu, les défauts, comment alors qu'est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur le jeu. C'est bizarre, je vous sens
sur
tous...
ce qui s'est passé dans la partie.
On peut partir des scènes éventuellement. Hein.
Voilà, c'est ça, je sais pas. Est-ce que vous avez envie de faire des critiques particulières sur le jeu? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, moins
vas-y,
plu
Emmanuel.
Bah, finalement, c'était beaucoup des scènes, faire connaissance avec les personnages locaux, s'imposer aussi. Donc
du social.
Beaucoup de social, et puis de découverte aussi, un petit peu des enjeux sociaux, même si là, on sentait bien qu'on était sortis des grandes cités, donc que ça changeait un peu par rapport à ce que peuvent proposer d'autres scénarios. Et après...
Il y a eu des conflits, il y a eu des... Comment ça s'est passé sur le social ?
Il n'y a pas eu forcément d'affrontement direct. C'est vrai que ça s'est passé relativement en douceur. On s'est pas retrouvé face à une grosse adversité non plus. Choix du MJ.
Mais vous aviez plein de petites adversités. C'est-à-dire que pour retaper la baraque, vous avez, par exemple, tu as essayé de convaincre le tailleur de pierre local de vous aider. Et tu n'en es pas rendu compte, mais en fait, tu as eu un comportement hyper méprisant vis-à-vis de lui. Parce que lui n'est pas membre d'une caste. Et en fait, t'arrêtais pas de parler de caste face à lui.
Bah, j'essayais de savoir, lui, comment il fonctionnait de son côté.
Oui, bien
que,
sûr.
Dans
bien
une
sûr.
Autre discipline.
Non, mais bien sûr.
Ouais,
mais après, du coup, je t'ai fait faire des tests d'empathie pour voir si tu comprenais que tu le blessais.
Non. ni perso, c'était cohérent.
Et donc, t'as eu quand même pas mal de travail où t'as essayé de discuter avec ses ouvriers, avec lui, pour voir si tu pouvais arranger le prix, parce qu'il essayait un peu de vous arnaquer et compagnie. Et en réparant ses outils, t'as pu l'aider quelque part, et donc il t'a un peu pardonné ça. Alors ça, c'est des choses qui sont passées, on va dire, de mon côté, mais au final, c'est des petits conflits qui ont lieu. La séduction que Yosei a faite sur Myris, la prodige, c'était aussi un jeu un peu ambivalent parce que en même temps, c'est toi qui avais trop en humanisme, non?
Non, c'était pas toi.
Mais en gros, vous aviez eu quelques comportements qui n'étaient pas forcément très dans le canon draconiste qu'elle respecte. Et en même temps, tu l'as séduisée, donc il y a des jeux de position qui sont là.
Ouais, mais j'étais irrésistible aussi, je veux dire, ça allait au-delà des tendances et voilà.
Mais c'est marrant que du coup, tu nous aies pas complètement cassé sur des comportements comme ça. On aurait dû se faire foutre dehors, se faire pourrir la gueule.
C'était très léger, il n'y avait pas encore de gros enjeux. Mais typiquement, là, c'est sur la scène finale où on s'est arrêté, où donc, il vient d'y avoir un séisme, et elle, donc Myris, après avoir soigné un peu les gens, prône que c'est parce qu'il y a eu un manquement de vénération des dragons que le village est puni. Et certains villageois prennent position en disant « Mais c'est bon, arrête avec tes histoires de dragons, ils sont pas là, on est juste entre nous ici. » Et alors je sais pas comment vous êtes positionné là-dessus, mais c'est ce genre de situation qui commence à cristalliser les problèmes. Alors on n'a peut-être pas eu de gros clash à propos de ça. De toute façon, il fallait un temps pour que vous connaissiez les PNJ, c'est vrai qu'on a joué lentement. En termes d'autres scènes qui ont eu lieu, vous avez quand même exploré la forêt pour retrouver un enfant qui s'était perdu. Donc il y a eu quand même des tests pour le retrouver, de pistage, de connaissance des animaux pour essayer de voir qu'est-ce que c'était la piste que vous suiviez. Vous êtes battu contre ce lézard. Bon, c'était un combat assez facile, mais il y a quand même eu un enjeu de combat. Moi, je sais pas, oui, il s'est passé la plupart des choses qui se passent dans une partie, sauf qu'elles n'étaient pas à très gros enjeux, parce que c'est une introduction. Mais...
Emmanuel.
C'est vrai que moi, j'ai retrouvé vraiment une partie qu'on peut voir, on y a pensé dans un Gone, quand on débute avec. Qu'on veut vraiment avoir un aspect.
Baronique.
Local, baronique, et donc gestion, où effectivement, c'est le même type de partie qu'on va retrouver. Il faut que les joueurs prennent le temps de se connaître, de connaître l'environnement, etc. Donc, c'est vrai que sur le coup, ça m'a pas.
De ce que me décrit Adrien aussi, avant de passer la parole à Yosei, ça me fait beaucoup penser au premier scénario du Hurlement qu'on avait playtesté il y a c'est quelques possible, saisons ouais. de ça. Yosei.
Non, je voulais juste rajouter, du coup, c'était une approche totalement différente de nos armées. Je vais y arriver, voilà, merci. Qui nous projetait directement dans le truc, on ne comprenait rien de ce qui se passe, et du coup, c'est voilà, juste deux approches complètement différentes pour un scénario d'introduction d'un jeu tradit, où là, c'est justement voilà, plus en douceur, on a le temps de vraiment se connaître.
Ouais, ça t'avait marqué ça la dernière fois. Là, justement, c'était plutôt effectivement une entrée douce en matière dans un univers, des discussions. T'as pas fait des gros enjeux, des gros conflits.
Alors, il y en aurait eu au fur et à mesure. C'est-à-dire que le scénario tel qu'il aurait dû se dérouler, il y aurait eu des événements de quotidien pour vous familiariser avec le système de jeu. Parce que c'est ça, hein, le match de Soul, c'est quoi? C'est l'occasion de faire des tests d'acrobatie, des tests de force, des tests d'endurance pour gagner le match.
Tu pourrais éteindre la lumière, s'il te plaît? J'arrive pas à voir Yosei, en fait. Tiens, tu vois, tu suis le fil, voilà, c'est ça. Excuse-moi, Adrien, je t'écoute.
Ouais, donc, le match de Soul, c'était l'occasion d'avoir des tests avec peu d'enjeux pour appréhender le système. Donc ça, on l'a pas fait, hein, mais c'était ce qu'on aurait fait juste ensuite. Et puis au fur et à mesure, il y aurait eu d'autres tremblements de terre, on vous aurait accusé d'autant plus.
Ouais.
Votre voisin qui convoitait vos terres aurait motivé une partie de la population à essayer de vous foutre dehors. Donc là, il y aurait eu vraiment des gros enjeux. Et à terme, il y aurait eu la cause de ces séismes qui se seraient révélés.
D'accord.
Vous voulez savoir,
Natacha.
Moi, je trouve que du coup, pour un one shot, ça met du temps à se mettre en place, en fait. Enfin,
c'est un jeu qui est, enfin, comme beaucoup de jeux tradis, c'est un jeu qui est destiné à la campagne.
Je... 36-15 frustration.
Ouais, oui, voilà, je ne referai pas mon éternel refrain sur one shot versus campagne. Mais
moi,
voilà.
Ce que je peux dire à Natacha, c'est que les vrais aspects frustrants de ce jeu. Moi j'avais l'impression que vous les subissiez un petit peu, mais après c'était que le tout début, donc pour vous c'était encore, enfin c'était peut-être pas encore frustrant, mais c'est que ce jeu propose de jouer, vous pouvez choisir des personnages jusque dans 8 castes. Ces castes, ça va du combattant Il y a combattant, protecteur, une sorte de paladin, une sorte de druide qui s'appelle prodige, des mages, des artisans. Et puis après, il y a des commerçants et des érudits. Et quand on, fait, quand on s'imagine une partie où des joueurs, il y a à la fois un combattant, un érudit et mettons un voyageur, chacun d'entre eux va avoir des problématiques et des objectifs qui sont complètement différents. Ne serait-ce parce que ben, c'est une vision du monde différente. Et donc, on se retrouve avec un voyageur qui veut voyager et explorer, un érudit qui veut passer son temps à lire des bouquins, éventuellement discuter avec les gens du cru pour apprendre les légendes locales, et un combattant qui va chercher un forgeron pour avoir une bonne arme, qui va lancer un duel contre un mec local, qui va essayer de se faire recruter pour pouiller des ennemis. En gros, chacun ayant un domaine où il est compétent, c'est-à-dire ce que tu dis du minimaxage, c'est qu'au final, même si tu ne minimaxes pas, ta caste fait que tu es bon quelque part. Et donc, les personnages sont des outils qui sont bons quelque part. Et donc, dans une partie normale, bah, y a des moments où le guerrier combat, et les autres se font chier, parce qu'un combat peut durer une heure. Un duel d'un combattant contre un autre bon combattant, c'est une heure de jeu. Parce que y a des Il y a des compétences d'esquive, de contre-attaque, de coups gratuits, de riposte, de machin. Enfin, c'est compliqué. Un mage qui veut faire un scénario dans un monde onirique en franchissant un portail, il peut y aller tout seul, parce que les autres sont pas mages, les autres se font chier. Un érudit qui va dans une bibliothèque pour discuter des légendes et compagnie, tous les autres se font chier. Et en fait, le syndrome central qui rend ce jeu pénible, c'est ça.
C'est comme
Et au final, c'est ce que t'as retrouvé un petit peu ici. C'est que toi, t'avais fait un personnage combattant, Natacha. Parce que t'avais des sorts de combat, Natacha, ouais. Et que là, ben, le combat, il y en a eu un tout petit qui arrive à la fin, qui a pas duré longtemps. Il n'y avait pas de donjon, pas de grands monstres, pas de boss, pas de trucs comme ça. En revanche, bah, le personnage d'Emmanuel, qui était artisan, bah, la retape de la baraque, bah, c'est intéressant. Il y a de l'enjeu, il y a de la discussion, on peut discuter matériaux. Il y avait la forêt locale, bah, du coup, pour notre voyageuse qui veut aller chasser,
dans son jardin.
Ça donne des zones de jeu. Et en fait, c'est ça le problème central de ce jeu. Alors, la méthode pour résoudre ça, c'est bah, la compagnie des inspirés par l'étoile. Alors oui, c'est un artefact qui marche, sauf que ben, ça fait un peu artificiel. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut garder en tête, vous jouez des aventuriers. Et aventurier dans le sens où... Non mais Natacha, aventurier, c'est pas combattant qui tue du monstre. Aventurier, c'est aventurier dans le sens participationniste du jeu de rôle. C'est on va vous proposer une situation, ben, emparez-vous-en.
Natacha. Ouais,
j'ai essayé. Hein. Enfin,
je sais.
La première soirée, si j'avais vraiment suivi mon personnage, j'aurais parlé avec personne. J'ai essayé d'embaucher un des jeunes du village pour devenir mon apprenti en magie.
Ça, t'es trop habitué au bon jeu.
Et tu entends quoi, là, que prophétie, c'est pas bon?
Ben, prophétie, c'est un jeu qui a ses défauts.
C'est un vieux jeu.
C'est un vieux jeu. Un
pourquoi,
jeu où...
pourquoi tu présentes prophétie du coup excuse-moi. Ouais. Emmanuel voulait prendre la parole.
Ouais, non, juste un petit tu détail, ça après, me fait marrer parce que dans les remerciements, il y a Henri Verne parmi Dan Simmons, Pratchett, Zelazny.
C'est l'arrière-petit-fils de Jules,
etc.
Ou...
Alors, Henri Verne, à moins qu'il y ait un homonyme, c'est l'auteur de Bob Moran. Donc pour le coup, pour le côté aventurier,
ouais, à fond.
Même si le contexte est totalement différent, on retrouve un peu ça, quoi, se retrouver dans à peu près n'importe quelle situation et puis et aller jouer avec, quoi.
Alors du coup, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait l'affinité avec ce jeu pour toi, Adrien ? T'avais l'air de dire que c'était un jeu auquel t'avais beaucoup joué.
Ouais.
Avant.
Alors moi, ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui a une grande richesse dans son univers. C'est vrai qu'en one shot, c'est dur à voir. Mais c'est quelque chose.
La richesse d'un univers ne dépend que ce que les personnages peuvent en explorer, tu vois.
Et alors, dans ce jeu-là, les personnages peuvent tout explorer. C'est pas un jeu à secret.
Pas tous ensemble,
c'est ça le problème.
Fabien.
Et ça prend du temps.
Dans ce jeu-là, il y a des mécanismes qui, moi, m'intéressent et me plaisent. Je sais pas si vous les avez ressentis comme intéressants ou pas, les mécanismes de chance et de maîtrise.
Ouais.
La mécanique des tendances qui, même, en fait, elle essaye de faire quelque chose qui est bien, qui est un peu lourd au final à gérer au quotidien.
J'ai du mal à savoir comment c'est décrit dans la base. Moi, je trouve qu'on l'a pas assez.
Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez parce que là, je ne suis plus. La chance et la maîtrise, déjà. Je voyais Emmanuel qui disait ça a l'air cool. Et après, on verra pour la tendance.
Ouais, je vais laisser Adrien expliquer parce qu'il le fera mieux.
Mais il parle tout seul depuis tout à l'heure.
Je parle tout seul, donc allez-y un petit peu.
Ok, d'accord. Donc, la chance et la maîtrise, ça permet de remodifier un peu les jets de dés. L'idée, c'est qu'après un jet de dés raté, on a des points de chance qu'on peut utiliser pour augmenter notre résultat.
D'accord, ouais.
Et la maîtrise, c'est plutôt avant qu'on va y faire appel, c'est-à-dire, bon, on est dans un domaine qu'on est censé maîtriser, donc on rajoute nos points de maîtrise de façon à augmenter à l'avance notre jet de dés.
D'accord.
Et l'un et l'autre se regagnent. La chance quand on rate un jet de dés et la maîtrise quand on réussit un jet de dés sans faire appel ni à l'un ni à l'autre.
D'accord, ok.
Donc, c'est un mécanisme, moi, que j'ai trouvé vachement intéressant. Mine de rien, je pensais, comme c'était un point par un point, que ça allait être assez faible. Et je trouve que ça nous a pas mal sauvé la mise.
Tout le monde a l'air d'être d'accord.
C'était vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai que ça... En plus, on ne fait pas forcément appel, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai essayé de ne pas faire appel à l'un ou à l'autre, au petit bonheur, la chance, ou selon ce qui me restait, mais plutôt selon le type de jet que je faisais.
Ouais, pareil.
Natacha.
Oui, c'est logique. Les termes, en tout cas, nous y incitent fortement.
Ouais. Et du coup, il y a une vraie cohérence là-dessus. Donc, ça fait un petit mécanisme que je trouve pas si lourd que ça à gérer.
Non, c'est
qu'on appuie
plutôt élégant.
Facilement,
ouais. Celui-là, il est pas lourd. Il est très élégant.
Qui est assez classe. Après, c'est vrai qu'il y a le système des tendances.
Alors, la tendance.
Un petit peu plus complexe.
Natacha, est-ce que tu veux le présenter? J'ai l'impression que. You say, si tu veux.
J'espère que je vais être à peu près clair. Donc la tendance correspond aux trois grandes croyances de l'univers. Donc est-ce qu'on fait confiance aux dragons? Est-ce qu'on est vraiment ancré dans l'ancienne religion, si on peut dire en tout cas? Donc tendance dragoniste. La croyance qui émerge des techniques humaines, donc humanistes, où en fait on va plus faire confiance aux nouvelles technologies.
C'est pas la tronçonneuse, la nouvelle technologie.
Non. Technique, si
voilà,
tu préfères,
pardon. C'est ça, c'est la roue, c'est...
Non, c'est la chirurgie.
Ah, quand même.
C'est la
les
mécanique,
engrenages,
les engrenages, des trucs comme ça.
Ah, c'est cool.
Les armes mécaniques, typiquement
l'arbalète.
L'arbalète, c'est interdit.
Bien sûr.
Et les explosifs.
Ah, il y a quand même de cette dynamite un peu.
La poudre noire.
D'accord.
Et enfin, la fatalité, donc, qui est liée au dragon Kamjaja.
Kalimchar, avec pas de
Kalimchar, avec
mais un H.
Mais un H. Et un K.
Qui est là, plus pour dire, à quoi bon, quoi. De toute façon, là, vous vous débattez dans un monde sur lequel vous n'avez aucune prise.
C'est à la fois l'égoïsme, la dépression.
Alors, c'est quoi ce système de tendance? C'est juste une couleur pour vous, pour faire du roleplay? C'est-à-dire que chacun d'entre vous dépend d'une de ces tendances? Ou alors, est-ce que ça vous apporte des bonus de les jouer? Est-ce que vous êtes récompensé pour le fait de le jouer?
Alors, c'est dur d'y répondre parce que j'ai pas tout exposé du jeu. Parce que sinon, on aurait passé encore plus de temps à la création de personnages et autres. Les tendances, donc elles ont deux effets. Un, ça doit vous indiquer comment jouer votre personnage. C'est-à-dire qu'un personnage qui a 5 en dragon, il voit un mec qui manie de la poudre à canon, il se pose même pas la question, il va essayer de l'accuser en justice, de le tuer s'il en a la capacité immédiatement. C'est interdit, donc le fait immédiatement, il se pose pas la question. Quelqu'un qui a 5 en fatalité, il va être égoïste au possible, ça va être un connard fini, un arriviste, un suicidaire, enfin bon. Et donc, ça guide votre manière de jouer. Ensuite, ça a des effets en jeu qui sont limités à quelques cas. Donc là, on ne les a pas joués, mais par exemple, pour un prodige, ils ont des pouvoirs de soins qui dépendent de leur score en dragon.
D'accord.
Donc s'ils ont peu en dragon, ils peuvent peu soigner. Donc là, ça a un effet qui est très limitant.
D'accord.
Il y a plusieurs effets où ça intervient.
Et donc, ces scores, quand même, ça nous permet aussi de jeter 3D au lieu de 1 sur certains jets, quand on veut, en fait.
Sur tous les jets de test, au lieu ils peuvent jeter soit un dé, soit faire appel aux tendances et jeter un dé par tendance.
Donc, avant de jeter les dés, on dit je vais utiliser la tendance dragoniste, par exemple. On a un dé de couleur qui correspond à chacune de ces 3
tendances. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des dés colorés. Il faudra que tu nous expliques ça aussi, à un moment donné.
Du coup, quand on veut lancer... Enfin, le dé de dragoniste, c'est rouge. Le dé... d'homme, c'est blanc et la fatalité, c'est noir.
D'accord, ok.
Donc, on les lance les 3 avant. Par exemple, je vais utiliser la tendance dragoniste. 2 cas de figure. Soit ma tendance dominante, c'est effectivement, le score principal est effectivement dans ma tendance dominante.
D'accord.
Alors, c'est pas tout à fait ça. En gros, comme elle le dit. Non, mais si, c'est presque ça, mais il y a une petite nuance. Comme tu le dis, en amont, tu déclares ta tendance dominante à toi. C'est-à-dire qu'a priori, je suis noble, je garderai celle-là parce que c'est ce que je mets en jeu.
D'accord.
Donc
ouais.
C'est ta tendance la plus élevée. Et en cas d'égalité, tu choisis.
D'accord.
Tu jettes tes dés. Et là, après, tu peux voir ce que peuvent t'offrir les différentes tendances.
Mmh.
T'as la valeur qu'a fait le dé du dragon, la valeur qu'a fait le dé humaniste et la valeur qu'a fait le dé fataliste. Si, et là, tu peux faire le choix. Tu peux choisir dès que tu veux. Même le plus élevé ou pas.
C'est-à-dire que, j'ai pas compris ça.
Oui, oui, t'es pas obligé de choisir le plus élevé. C'est ça la petite nuance que t'avais pas. C'est que tu peux te dire, ok, si je prends mon dé dragon qui fait 4, ça me permet de réussir ric-rac, mais c'est bon, je reste dans mon optique
dans
de
mon
dragon.
Obédience, voilà. Ouais, dans ma tendance.
Par contre, si je prends le 10,
c'est intéressant,
à côté de fatalité, je peux faire un critique, je peux vraiment faire un score de ouf et avoir des bonus derrière.
Mais...
Par contre, du coup, je cède à la facilité.
Ça
tu
me
vois.
Fait penser à Emilia Christie, tout ça, tu vois.
Ouais, du coup, j'avais pas bien Natacha. Compris ça, et c'est pour ça que, en fait, je trouvais qu'on l'avait pas assez souligné, mais bon, c'est peut-être parce que, en fait, j'avais pas compris.
J'ai peut-être pas assez passé de temps. En fait, il y avait tellement d'éléments décrits.
Et
je
m'attendais à plus d'importance du RP dans ce truc-là, où il faudrait absolument, enfin, les règles nous diraient absolument de décrire nos actions. Et de décrire l'action dans le jeu en fonction de la couleur qu'on vient de donner au jet, quoi.
Il n'y a pas eu d'obligation, du coup de...
Bah, pas d'après ce que j'ai compris.
Non,
il y a peut-être des conséquences, par contre.
En combat, il y a des effets sur les critiques qui sont obligatoires, par exemple. Mais c'est vrai que le reste du temps, c'est... Tu peux donner de la couleur, une teinte. Moi, en général, sur les actions qui étaient importantes, je demandais aux joueurs que ça se mette en avant.
Là, c'est vraiment dommage parce que du coup, tu as un système qui paraît séduisant et au fait, c'est une
perte. Le problème, c'est qu'il y a plein de situations, c'est compliqué à mettre en avant. Mais en gros, l'effet, c'est que ce choix-là, même s'il n'a pas d'effet sur la fiction immédiate, il a un effet sur le personnage qui est que selon le choix que tu fais, de conserver ton dé ou non, enfin le dé prévu ou non.
Oui, c'est là que tu vas pexer en fait, tu vas augmenter des points.
Alors, c'est pas des pex, mais en gros, ça fait évoluer tes tendances. Ça va mettre des petits points sur l'une, sur l'autre. Et ça peut les faire évoluer.
Bah du coup, même si tu peux pas décrire la couleur de ton geste, tu peux au moins décrire ce que ça te fait intérieurement.
Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Mais ouais, le jeu met pas l'accent sur ça.
Je pensais plus, c'est pas le geste qu'il faut décrire, mais c'est l'intention qu'il y a derrière, quoi. Le pourquoi t'en arrives à faire ce geste-là, et je trouve que c'est plus
c'est
comme ça qu'il faudrait le prendre.
C'est exactement la dynamique de Mines Christie. Ou parfois tu peux, bon t'as globalement, j'explique pas que Mines Christie c'est trop complexe, mais t'as globalement un effet comme ça. Et donc tu vas engager le dé, mais tous les autres joueurs autour de la table, ils voient que tu engages ce dé-là. Et donc, à un moment donné, ils pourront, au cours du scénario, pour t'affaiblir ou pour te dire « Oui, mais la dernière fois, là, quand t'as convaincu le gars, tu l'as convaincu contre tes principes. Je l'ai vu dans ton regard. » Sous-entendu, en fait, ils font du méta, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu le joueur choisir un mauvais dé, enfin un dé qui, tu vois où je veux en venir, Adrien.
Il y a ce
mec là dans Mines Christie et
ça c'est un truc que je fais sur les jets de dés à enjeu. Typiquement, à un moment donné dans la partie, le personnage de Yosei essayait de cerner. Ils étaient dans au repas organisé par le chef du village, donc il y avait un peu tous les PNJ importants qui étaient présents pour se rencontrer, et donc elle essayait de cerner les gens présents. Et en fait, elle a gardé le dé humaniste. Et donc, à ce moment-là, la prodige l'a regardé l'air suspicieux. Alors, je ne sais pas si pour vous, vous l'avez compris que c'était parce que c'était ce dé qui avait été choisi. Moi, je l'ai joué comme pour ça. Et en général, j'essaye de le faire sur les jets à enjeu. Sur les jets à enjeu, je vais vous le demander. Et le problème, c'est que c'est vrai que tous les jets ne sont pas à enjeu parce qu'on est dans un jeu qui pousse à lancer souvent les dés. Parce qu'il y a la chance, la maîtrise, donc du coup on a intérêt à jeter des dés pour dépenser ses ressources, en gagner, parce qu'il y a plein de situations où on se retrouve à jeter des dés, et il n'y a pas tout le temps un grand enjeu derrière. Et donc c'est vrai que des fois c'est pénible de demander, oui pourquoi t'as gardé la fatalité, j'ai essayé de pister un chevreuil, quoi. C'est bon, le faire de façon fataliste ou humaniste, c'est peu porteur de sens à ce moment-là.
Après, peut-être justement se servir de ce scénario qui est assez lent et qui est là pour qu'on apprenne, pour expliquer aux joueurs que ça devient un réflexe doucement, qu'ils ne sont pas obligés effectivement de le faire à chaque fois, comme quand j'ai tué un lapin, mais leur donner le réflexe doucement de le faire sur les choix importants.
Ouais.
Mais j'ai la sensation, à ce que tu décris, après moi je n'ai pas joué, mais j'ai la sensation qu'en fait ce qui va être important dans ce jeu, c'est moins les enjeux en eux-mêmes, qui peuvent être minimes, que la façon dont les relations entre les personnages et la façon dont les personnages des joueurs font pour les résoudre va... comment dire, engendrer des relations de plus en plus complexes au sein du village et créer en fait des tensions qui, elles, par contre, seront un enjeu. C'est-à-dire assez rapidement, c'est un peu ce que tu voulais dire, Adrien, je pense, quand tu disais que dans Prophétie, ça tourne autour des personnages, non ? Non, il y a vraiment des enjeux...
Non, quand je dis que ça tourne...
C'est une hypothèse.
En fait, quand je dis que ça tourne autour des personnages, c'est que, en général, une campagne... Enfin, moi, quand je le faisais jouer, je faisais pas une campagne en me disant... ben le méchant c'est lui, il a ça comme plan, et puis son donjon il est là, et etc etc. C'était plus, on fait quelques scénars avec des enjeux locaux comme ça, qu'on peut improviser facilement, des petits trucs, et puis au moment on voit des éléments qui ont plu. En fait, ça se rapproche un petit peu de peut-être ce qui se passe dans Apocalypse World. Enfin, c'est peut-être comme ça que je le faut voyez. C'est-à-dire, ils se sont fait un ennemi dans la partie parce qu'ils ont été ignobles avec ce PNJ ou autre. Et du coup, ça devient un élément que je vais réutiliser. Et en gros, je vais c'est pas ça. Créer une campagne pour les, en amont et que les joueurs vont explorer. C'est je vais créer une campagne autour de mes joueurs.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ce sont les moyens pour résoudre des petits enjeux au départ. Qui ensuite, les moyens eux-mêmes vont devenir l'enjeu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et au fur et à mesure, en fait, ça va faire une espèce de spirale infernale c'est comme ça, dans lequel on va être obligé de faire appel au forgeron pour régler le problème qu'on a avec la cultiste qui va, etc.
Typiquement, un des événements que je pouvais faire venir, c'était un inquisiteur est de passage dans le village et croise l'aubergiste et ça se passe mal entre eux. Et donc là, vous allez devoir prendre position. Enfin, on va vous demander votre avis. Vous êtes des membres de caste dans le village, vous êtes parmi les seuls qui ont une caste dans le village. Et que vous preniez position ou même que vous ne preniez pas, ça aura des conséquences. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, des PNJ vont vous garder rancune ou non. Et alors après, c'est un jeu où les choses sont même pas conseillées dans le bouquin. Ça
transpire, en fait.
Ça transpire, voilà. Mais ça fait partie des défauts souvent de ces jeux traditionnels qui ne disent pas très bien comment y jouer et quoi mettre en avant. Et...
Ce qui serait cool, c'est d'avoir plusieurs MJ de prophétie qui viennent témoigner et d'observer un ensemble statistique un peu intéressant et de voir comment leur campagne s'est passée. Et si tous te disent « Mais à la fin, nous, on quittait même plus le village, ça devenait complètement ouf, il suffisait qu'un visiteur arrive pour que ça déclenche tout, ça mette en branle tout un tas de réseaux de conflits. » Enfin voilà. Mais ça, moi, je l'entends beaucoup dans les jeux traditionnels, des gens qui disent « Mais au bout d'un certain moment, ça tournait autour de mes persos, tu vois, il y en avait deux qui vivaient une histoire d'amour de ouf, mais en même temps, ils étaient convaincu que, etc. quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que tu l'as vécu, toi, Adrien, à tes tables ?
Alors, oui et non, parce qu'en fait, là il y avait un début dans le village, mais en pratique, c'est quand même des groupes qui voyagent.
D'accord.
Parce que c'est un monde qui est à explorer.
D'accord.
Il y a vraiment plein de choses partout.
Très bien. Très bien. En tout cas, ça a l'air intéressant de l'extérieur comme ça. Est-ce que vous avez autre chose à en dire ? J'ai l'impression vraiment que c'est un jeu qui n'appelle pas beaucoup de commentaires de votre part.
C'est ça, c'est un jeu intéressant. Après, c'est pas un jeu qui va bouleverser les standards non plus et qui.
Tu penses pas que ça peut générer des bonnes conversations, ces histoires d'obédience, de rapport au dragon Franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc intéressant.
Moi, ce que j'ai ressenti de ce jeu, c'est un jeu qui a plein de bonnes idées inachevées.
D'accord.
Je pense que si j'étais MJ, je la refais. En tant que MJ, je ne serais pas prête à mettre l'énergie nécessaire pour en faire quelque chose d'intense, en fait. Parce qu'à mon sens, ça doit demander une implication énorme et pas faire la moindre faute de mastering.
Mais tu sais que t'es pas la seule, en fait.
De quoi ?
Il faut faire beaucoup de rillettes, typiquement.
C'est ça, ouais. Mais tu sais que t'es pas la seule non plus à être impliquée dans ces cas-là. Les joueurs aussi peuvent l'être, tu vois. Si les dés, par exemple, de couleur, là, ça peut être important... Je sais pas, enfin voilà, je pense que t'es dans ce genre de jeu où les personnages sont importants, t'es pas le seul en tant que MJ à faire le scénario. Et justement, Adrien, que propose la base en termes de scénario ? Qu'est-ce qu'il te propose ?
Ça, c'est le seul scénario dans la base. Dans les suppléments, il y en a plein d'autres. Ah oui, il y en a plein des suppléments.
Et c'est quoi les suppléments, tu sais ?
Il y en a un autour de chacun des grands dragons. Il y en a une série qui fait une évolution dans l'univers. En gros, il y a eu, je crois, trois suppléments qui font une campagne autour d'une grande guerre qui a lieu entre un empire humaniste et les empires draconistes et qui viennent chambouler l'ordre du monde. Mmh. Il est moins... c'est moins aventure. D'accord. Et c'est plus politique et guerre.
D'accord, ok.
C'est vrai que ça reste un jeu traditionnel dans ces suppléments.
Yosei, s'il y avait une scène de prophétie qui t'a marqué, un truc qui t'a bien plu dans le... Tu dirais quoi ?
Bah honnêtement, je ne saurais même pas quoi dire parce que c'était. C'était une succession de petites scènes. Il n'y a pas eu, justement, comme on disait, de gros moments intenses et tout. C'était
Bon, écoutez,
c'était de la découverte tranquille.
Les filles, J'ai l'impression que vous êtes emmerdé là.
Non. Bah, enfin, en soi, non, c'est vrai que là.
Franchement, Natacha.
Ouais, Natacha, ouais.
Attends, c'est pas parce qu'il y a des micros qu'il faut pas le dire.
Non,
il y a un moment donné, il faut jouer carte sur table.
On a arrêté la partie en plein.
Oui.
D'accord.
On a arrêté la partie aussi parce que moi j'ai autre chose à faire après et que je voulais pas finir trop tard.
D'accord, ok. Voilà, ça roule.
Mais bon,
moi j'aurais bien joué 2 heures de plus, honnêtement.
D'accord, ok.
Pour justement déclencher un peu.
Des trucs un peu.
Ça donnait envie, mais. Voilà.
D'accord, un petit peu frustré.
C'est pour ça que je précise qu'on a. Enfin, c'est pas uniquement. Si les choses n'ont pas eu le temps de se mettre en place, c'est pas non plus uniquement de la faute du jeu. Quoi,
d'accord.
Ouais, déjà, j'ai accéléré tout le début parce que. je savais qu'il y avait des longueurs, hein, mais.
Emmanuel, tu veux
ajouter quelque chose ? Finalement, y a des jeux qui font à peu près la même chose, mais beaucoup mieux. Ne serait-ce qu'Agon, qui mériterait d'ailleurs d'être cité dans les références.
Mais peut-être
qu'il n'y est pas.
Mais je sais pas, il est peut-être plus ancien qu'Agon dans ce jeu, non ?
Bah, écoute, 2001-2002.
Ça, c'est la deuxième édition, je sais pas de quand date la première.
Ouais, peut-être.
D'accord, ouais. Parce que attention, Agon, c'est les années 2000 aussi. Hein. C'est 99, je crois. Ouais, je suis plus pas sûr, mais.
Bon.
Oui, je ne connais aucune date et je ne retiens rien des dates. Je sais, je ne suis pas un érudit du jeu de rôle. Voilà.
Non, mais c'est vrai que finalement, c'est à peu près les mêmes choses qui sont balayées, quoi. À la fois des enjeux mystiques, à la fois quelques enjeux politiques et puis du très très personnel, quoi, très centré sur les personnages. Donc bon, après, c'est peut-être aussi l'époque qui veut ça, hein, le fait qu'il y ait plusieurs jeux similaires qui sortent.
Il y a beaucoup de jeux qui ressemblaient à ça. Hein. C'est pas une surprise.
D'accord. Bon, ben, on va s'arrêter là.
Oui, sur ce podcast. Tous les podcasts ne donnent pas des expériences.
Voilà, c'est ça.
Extraordinaire. Hein.
Ouais, c'est ça.
Non, mais j'ai l'impression, c'est marrant que finalement, l'ambiance du jeu se ressent vachement dans l'ambiance du podcast.
C'est ça. C'est
parce qu'hier, c'était un scénar speed. On était arrivé en podcast, on était en mode intenable. Là, c'était un scénar pépouze. On est en mode
hier,
tranquille.
Hier, tu voulais dire la saison dernière. Enfin,
oui,
le
bien
dernier.
Sûr, c'est tout à fait ce que je voulais dire.
Ça va être coupé, ça.
Désolé. La dernière fois, donc.
non, je couperai pas, c'est pas grave.
On était dans le rythme vraiment du scénario et là, on était en mode tranquille, découverte. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive en podcast en mode. C'est pas en mode négatif, on s'est ennuyé ou quoi, en tout cas pas pour moi.
Mais en mode tranquille.
Mais juste en mode tranquille, voilà.
D'accord. Eh bien, merci Adrien d'être venu présenter ce jeu à la cellule.
Merci.
Même si c'est vrai que là, moi je reste en tant que premier auditeur du podcast, puisque encore une fois, je n'ai pas participé à cette partie, je reste un peu sur ma faim, j'aurais voulu en savoir un peu plus. Mais bon, je vois bien un petit peu le genre de choses vers où ça peut mener. C'est vraiment du jeu sur le long terme et dont les personnages vont prendre, sur lesquels les personnages vont prendre vraiment une importance liée à leur choix, notamment de tendance et tout ça. Bon, faut voir ce que ça donne. Merci à vous, à très bientôt tout le monde. Merci Adrien, merci Natacha, merci Yossé, merci Emmanuel, à très bientôt.
Bye.
Salut.